s'achète, avec une arme tout se négocie. Ça on le savait depuis un bail, mais ça démotive. Pourquoi le risque et le danger s'appeler aux filles? Et comment un père de famille peut être pédophile? Ou n'importe qui d'autre? Pourquoi timide Scarface alors que Tony finit le pif dans un kilo? On sait ce qu'il vaut, il a crevé Mani. Flinguer son meilleur pote, pourtant les minots l'admirent. Comment des gens prennent la prison ferme sur un faux litige, alors que les flics prennent que dalle pour un homicide? Et les hommes politiques, ils volent plus que n'importe quel braqueur et sont juste assignés à domicile. Aucune raison qu'on les glorifie. Pourquoi vouloir niquer la France alors que Marianne est séropositive? T'as une vie, mais peu importe ce qu'elle vaut ici. Mon cœur parle, mais t'as un problème auditif. Ils veulent rien entendre. Ça a toujours été comme ça, mec. Et ça va de plus en plus mal. Y'a de quoi se poser des questions. Le temps, c'est de l'argent, c'est l'argent qui nous sert de monde. Pourtant, un tas de gens sont partants pour refaire le monde. Mais toi, à quoi voter? On sait que leurs présidentielles sont de vraies mises en scène qu'il faut boycotter. Tu peux noter pourquoi on donne plus d'aide pour les catastrophes naturelles que pour celles qu'on a provoquées. Tant de questions qui demandent réflexion. On subit tous la pression et sans exception. Comment tu veux qu'on puisse rester calme? Pourquoi tu te mêles des problèmes des autres si t'as les mêmes chez toi? Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi juger tout un peuple sur des actes orchestrés par des chefs d'État? Pourquoi tu rêves de là où t'aurais pu naître? Pourquoi je ferais la morale si l'erreur est humaine? J'ai pas de réponse à tout, mais je dois faire cette rime quand l'idée qui me tient à cœur me traverse l'esprit. Parce que ils font comme si de rien n'était. Le temps passe et on perd des gens. Y'a de quoi péter plomb. On dirait qu'on perd la partie. Combien d'entre nous sont vraiment prêts à partir? Qu'est-ce qui attire les gens vers le mal? Moi aussi je veux l'argent, mais ce qui m'est cher n'a pas de prix. Pourquoi les hommes devraient se cacher pour pleurer? Pourquoi les meilleurs partent souvent les premiers? Pourquoi faire l'effort si tout ça ne vaut rien? Et si je suis un mec bien, est-ce que ça fait de moi le prochain? Je sais pas. Non, je sais pas, mec. Je me pose la question. Trop de questions. À nos disparus, reposez en paix.
Bonjour et bienvenue, 10h TU midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Situation très incertaine autour du détroit d'Ormuz. L'Iran annonce qu'il en reprend le strict contrôle en réponse au maintien du blocus des ports iraniens par les États-Unis. Hier, les Iraniens avaient décidé sa réouverture au trafic marchand. Au deuxième jour de la trêve au Liban, l'arrêt des hostilités ne fait pas consensus en Israël. L'opposition reproche à Benjamin Netanyahou d'avoir agi sur ordre de Donald Trump. L'extrême droite européenne s'est donné rendez-vous à Milan, son premier depuis la défaite de Viktor Orban en Hongrie. Le pape Léon XIV entame la troisième étape de sa tournée africaine. Il est attendu à Luanda, capitale de l'Angola. En France, la mort d'une actrice très populaire et au talent multiple, Nathalie Baye, elle avait 77 ans.
RFI.
Au deuxième jour de la trêve au Liban, le président Joseph Aoun déclare qu'il travaille à un accord permanent avec Israël. Pour lui, des discussions directes avec son ennemi du Sud ne constituent pas un signe de faiblesse. Les deux pays sont en état de guerre depuis 1948. En Israël non plus, l'arrêt des hostilités ne fait pas l'unanimité. L'opposition reproche à Benjamin Netanyahou d'avoir cédé aux pressions de Donald Trump. À Jérusalem pour RFI, Michel Paul.
C'est un Benjamin Netanyahou sur la défensive qui tente d'expliquer sa décision aux Israéliens. Officiellement, le Premier ministre affirme avoir accepté ce cessez-le-feu pour donner une chance à une solution politique à la demande de son ami Donald Trump. Mais derrière la rhétorique des résultats majeurs, l'image de l'homme fort d'Israël vacille. Placé sous la tutelle quasi directe de la Maison-Blanche, Netanyahou doit aussi contenir la fureur de son aile droite qui crie à la capitulation avant d'avoir fini le travail. Dans le Nord, la colère ne retombe pas. Pour les habitants, le compte n'y est pas. Malgré la zone de sécurité vantée par le gouvernement, beaucoup refusent de continuer à vivre sous la menace des drones et des stocks de roquettes du Hezbollah. À la Knesset, l'opposition dénonce une trêve dictée par l'étranger plutôt que par les impératifs de sécurité. Entre l'injonction de Trump et une opinion publique fracturée, Benjamin Netanyahou apparaît plus que jamais pris en étau, contraint de naviguer à vue, alors que le Hezbollah, bien qu'affaibli, n'est toujours pas désarmé et n'est pas prêt de l'être. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et à propos encore d'Israël, le chef de la diplomatie turque l'accuse d'utiliser la guerre au Moyen-Orient comme un prétexte pour occuper plus de territoire. Je le disais pour commencer, on assiste à un bras de fer diplomatique autour du détroit d'Ormuz au lendemain de l'annonce iranienne sur sa réouverture au trafic marchand. Ce matin, l'Iran a affirmé l'avoir de nouveau fermé à cause du blocus américain des ports iraniens. Si le blocus se poursuit, le détroit ne restera pas ouvert, avait prévenu le très influent président du Parlement iranien. De son côté, Donald Trump avait averti le blocus des ports iraniens continuerait tant qu'un accord ne serait pas trouvé avec Téhéran. Autre grand titre dans l'actualité, un rassemblement de l'extrême droite à Milan en Italie. La capitale lombarde accueille cet après-midi un grand meeting sur l'immigration, la sécurité contre les règles imposées par l'Europe. Il y aura bien sûr les deux leaders de la droite populiste en Italie, Giorgia Meloni, chef du gouvernement, et Matteo Salvini, chef de la Ligue. Et parmi leurs invités, le français Jordan Bardella et le néerlandais Geert Wilders. Ce rendez-vous de l'extrême droite européenne est le premier depuis la défaite de Viktor Orban le week-end dernier en Hongrie. Son mot d'ordre, à le lire sans crainte, en Europe, patron dans notre propre maison.
Derrière ce slogan, le chef de la Ligue a regroupé divers sujets comme la lutte pour la remigration, c'est-à-dire l'expulsion des immigrés non européens vers leur pays d'origine, contre les bureaucrates de Bruxelles ou encore pour la justice proche des citoyens. Indubitablement, Matteo Salvini, qui ne recueille actuellement que 7,2% des intentions de vote, espère reconquérir une partie de l'électorat passé dans les rangs de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, en profitant d'un moment délicat pour elle. La chef du gouvernement a été fragilisée par l'échec du référendum sur la réforme de la justice. Elle a perdu son grand soutien européen dans la lutte contre l'immigration illégale, Viktor Orban, suite à sa défaite électorale, et elle n'a plus l'ambition de jouer le rôle de médiateur entre l'Europe et Donald Trump, puisqu'elle a pris clairement ses distances avec lui. Ce cas aussi fait Salvini, mais de manière plus ambiguë, arguant que la Ligue est pour le pape et contre ceux qui l'attaquent. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et pendant que l'extrême droite européenne se retrouve à Milan, Pedro Sanchez réunit des dirigeants de gauche à Barcelone. Le Premier ministre espagnol a invité plusieurs personnalités, à commencer par le président brésilien Lula. L'objectif est de promouvoir une réponse commune face, je cite, à la montée de la vague réactionnaire dans le monde. Le pape Léon XIV entame la troisième étape de sa tournée en Afrique. Après une messe célébrée ce matin à l'aéroport de Yaoundé, au Cameroun, il doit s'envoler pour Luanda, capitale de l'Angola, pays lusophone déjà visité par Jean-Paul II et par Benoît XVI. Au Cameroun, des foules immenses et ferventes ont accueilli le souverain pontife dans chacun de ses déplacements. Retour sur les temps forts de cette visite avec Véronique Guémard et Nicolas Benita.
Dans ses discours comme dans ses homélies, Léon XIV semble avoir imprimé son style. Dès son arrivée à Yaoundé mercredi, devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique, il a cité Saint Augustin. Ceux qui commandent sont au service de ceux qu'ils semblent commander. Gouverner, c'est écouter réellement les citoyens, a encore ajouté le pape, invitant les autorités à un changement d'approche et en incluant la société civile, en respectant l'état de droit et en brisant les chaînes de la corruption. Un message qui a marqué les Camerounais. Le ton était donné. À Bamenda, épicentre du conflit en en région anglophone du Nord-Ouest. Lors de la rencontre pour la paix à la cathédrale, Léon XIV a encore insisté. Le monde est détruit par quelques dominateurs et maintenu sur pied par une myriade de frères et sœurs solidaires. Il a aussi fustigé les seigneurs de la guerre et encouragé les habitants à œuvrer pour la paix. Enfin, à Douala, son homélie s'est centrée sur le besoin de partage et s'adressant aux jeunes confrontés au chômage et tentés par l'émigration, il leur a dit « Ne cédez pas à la méfiance et au découragement ». Un message réitéré aux étudiants et aux enseignants à l'Université catholique d'Afrique centrale. Incarner les valeurs à transmettre, la justice, l'équité, l'intégrité. Véronique Guémard, Nicolas Benita, Yaoundé, RFI.
La Russie, visée par des tirs nocturnes de drones ukrainiens, ont été touchées deux villes industrielles situées sur les rives de la Volga, ainsi qu'à un port de la mer Baltique qui exporte des produits pétroliers. En France, la mort d'une actrice très populaire et au talent multiple, Nathalie Baye, décédée à Paris à l'âge de 77 ans. Elle souffrait d'une grave maladie neurodégénérative. Nathalie Baye, star très discrète, laisse une filmographie riche et internationale, plusieurs fois récompensée par des Césars et bien d'autres prix. Elle aura joué avec François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou bien encore Claude Chabrol. Emmanuel Macron salue sur X une comédienne, je cite, avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi. Toujours en France, c'est désormais chose faite, appairer plusieurs rétro-pédalages. Le Premier ministre a annoncé que les fleuristes et les boulangers pourraient ouvrir et salarier des employés volontaires dès ce 1er mai, jour de la fête du travail. Une atteinte aux acquis sociaux, dénoncent les syndicats. Une satisfaction, en revanche, pour les petits patrons comme ceux rencontrés en région parisienne par Tanita Fallet.
Dans cette boulangerie du centre de Vanves, en région parisienne, les clients affluent.
Avancez, s'il vous plaît.
Mais jusqu'à aujourd'hui, Madame Houssine, gérante de trois boulangeries en Île-de-France, était obligée de fermer les 1er mai.
Même en étant moi et mon mari sur une seule structure, c'est pas possible, on peut pas et faire le pain et la pâtisserie et servir.
Elle pourra désormais lever le rideau de ses boulangeries lors de la fête du travail. Condition, les employés devront être volontaires, donner leur accord écrit et être payés double. Alors, l'annonce du Premier ministre...
On est ravis parce qu'on se dit que c'est pas un manque à gagner, c'est des journées travaillant, on en a besoin de ce chiffre d'affaires.
Côté salarié aussi, la nouvelle donne le sourire.
Ça fait du bien, ça fait plaisir.
Cet employé chez une fleuriste en Île-de-France préfère rester anonyme.
C'est quand même une fête quand même assez importante pour nous.
Et vous, en tant que salarié, le fait d'être payé double?
Ah bah moi, maintenant que je paye un loyer, donc ça m'arrange un peu du coup, parce que c'est quand même le seul jour de l'année où on est quand même payé double et tout, donc c'est important pour nous quoi.
La mesure ne concerne que les fleuristes et boulangers indépendants, ce que regrettent d'autres commerçants alimentaires comme les bouchers et les poissonniers.
Reportage à Paris de Tanita Fallet. Le sport, les sports en bref, en commençant par le football, victoire in extremis de Lens sur Toulouse, 3-2 en match d'ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Et puis en tennis, le tournoi de Barcelone, le français Arthur Fils est en demi-finale. Il sera opposé aujourd'hui au tout jeune espagnol Rafael Jodar qui n'a que 19 ans. L'information revient à 13h sur RFI. D'ici là, écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission de Bruno Faure.
Principe actif.
Ça peut arriver de faire une fixette à un moment donné sans pour autant savoir pourquoi. Tu t'abandonnes totalement à l'univers tout puissant et tu te laisses dériver avec le courant.
102.4 FM.
naissance à votre avis. Mais on se laisse faire, voilà tout. Et la vie vous étreint. Et alors, c'est peut-être dans la chambre d'une clinique, entre deux gares par exemple. La clinique qui avec les ans va disparaître, comme le boulevard qui la porte. Le boulevard qui est resté ouvert au vent de la guerre et du commerce. La chambre. Sentiez-vous que vous êtes né dans une chambre? Moi non. Mais entre deux gares à Saoui, l'espace des boulevards, l'espace des exodes, l'espace où on se retrouve sur l'ailleurs, des avenues. Et du monde, au hasard. Par des puits à moutons. Ah, salut les fuites. Ô fuite du salut. On vit. Nos sacs sont pleins de joie, de bondissante lenteur et de tristesse. Les paysans, eux, respirent encore à l'ancienne. Lointain pays calme, où des cœurs peuvent s'enfler, s'emplir du souffle qu'on lui donne, comme rayon de vent vivant, coup, baguette de la magie, de la vie, car la vie est un songe, mais le rêve est bien vrai. Cette vie est un conte de quelque inconnu qu'on attend. J'ai, en d'autres vies, tant espéré de l'inconnu. Car la vie est un songe. Mais le rêve est bien vrai. On vit. Nos sacs sont pleins de joie, de bondissante lenteur et de tristesse. J'ai, en d'autres vies, tant espéré de l'inconnu, ma fée, ma fiancée.
Garçons qui courent sur place, vont-ils dans le mur ou dans l'espace? démission, démissionner. Longtemps je n'ai plus vu.